Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Bonjour, bonsoir, c'est selon là où vous vous trouvez actuellement en train de nous suivre dans le club de la presse du jour ce vendredi 23 mai 2025. Merci de nous suivre sur nos radios relais, Radio Lumière FM à Nero, Radio La Paix du côté d'Atapabé, Centrale FM à Soukoudé, Sky FM à Badou, Radio Daoula Bassar et puis Radio Saba FM à Baga près de Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan. Ce n'est pas fini. Ibn Radio, les radios en ligne, et puis Radio Libanais. Vous pouvez également nous suivre sur le www.canalfm.com. Bienvenue au club. La technique est assurée par Kiki Sosa derrière la vitrine avec la mise en ligne de Jérôme de Akuta au microphone. Je me nomme David Aboati. Et toi, Ti, Daré, Yves Niclo. C'est comme ça la déclinaison. Et puis là, mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement pour le club de ce jour. Un communiqué survient justement à l'orée des examens du bac 2, à quelques semaines du démarrage des épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie, prévue justement pour le 17 jusqu'au 21 juin 2025. L'Office du baccalauréat du Togo met l'accent sur la transparence et l'équité dans le processus de correction. Une instruction formelle a été adressée le 5 mai dernier par le directeur général de l'institution, le professeur Menlip Martin Gang, au chef d'inspection pour procéder à l'apurement de la liste des enseignants retenus pour la correction des copies. Et justement par rapport à ce communiqué, est-ce que ce communiqué suffit justement-il d'éradiquer les manœuvres qu'on connaît dans la correction des examens? Est-ce que justement ce communiqué, qu'est-ce qui sous-tend ce communiqué qu'a adressé le directeur de l'Office du Bac à l'endroit des chefs d'inspection? Mesdames et messieurs, nous allons en parler dans cette émission, l'émission du jour. Qui connaît déjà la participation au plateau ici de Monsieur Teko Firmin Agbouille, journaliste chroniqueur. Firmin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. C'est Firmin Teko Agbo.
Ah, mais Firmin Teko Agbo,
ouais, c'est le nom voilà. De famille, c'est Teko Agbo.
Teko Agbo, bien sûr. Bienvenue au club.
Ouais, merci de m'avoir invité.
D'accord, merci beaucoup. Et justement, autour du plateau, nous avons Sami Oro Sama, il est juriste et défenseur des droits humains. Sama, bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à Lomé et dans les localités environnantes.
Ah, mais bienvenue au club.
C'est un plaisir.
Un plaisir qui est partagé aussi avec Gabin Diakho, il est juriste, directeur des cabinets Juris Consulting. Bienvenue, Gabin, bonjour.
Bonjour David, merci de m'avoir invité.
Tout à fait. Nous avons également Germain Pouli, qu'on connaît très bien dans la presse togolaise. Germain, bonjour.
Merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Mm. Encore une fois, David, merci pour cette invitation, c'est avec plaisir.
Et justement, nous allons aller tout droit dans les sujets. Le bac 2, un examen que nous connaissons très bien. Quelqu'un a eu des difficultés au bac? Moi, j'ai passé ça deux fois. J'y vais.
C'est pas bien sûr.
Moi, j'ai passé le bac deux fois parce que c'est un examen très difficile. Et vous?
J'ai eu la chance de le passer une seule fois.
Une seule fois? Ah, c'est bien. Et vous, Gabin?
Une seule fois.
Une seule fois, bien sûr. Firmin?
Non, une seule fois.
Une seule fois? Ah. Ça va. Ah, ben c'est, vous, c'est, ouais. Je suis votre petit frère, alors.
Non, tu es notre doyen.
Bon, un clé d'œil à ceux qui l'ont passé trois fois, quatre fois, six fois, c'est sûr. Oui. Parce que un examen.
J'ai un ami qui l'a passé 8 fois. Hein.
Ah, mais tout à fait. Aujourd'hui, il est devenu quoi?
Bon, il est enseignant d'histoire.
Ah, mais il doit être un bon enseignant parce qu'il a eu à revivre les cours plusieurs fois pendant 8 ans. Ah, mais il sera un très, très bon professeur.
Mais bizarrement, il était très brillant en classe, toujours dans les 5 premiers, mais on n'a jamais su ce qui se passe. Et puis bon, l'examen, parfois, il dit, j'ai très mal à la tête, je n'arrive pas à travailler. Parfois, c'est des pleurs, j'ai mal aux yeux, j'arrive pas à bien voir et tout. Bon, il a passé pratiquement 8 fois.
Ah ben, ça c'est bien. Je me rappelle aussi d'un professeur à l'université, je tais son nom. Il a eu à passer le bac 6 fois. Et le jour qu'il nous a raconté ça à la fac, mais on s'étonnait, dit, mais malgré ça, mais il enseigne très bien. Ouais. Il est très rodé en matière d'enseignement. Donc, ceux qui ont déjà passé le bac 1 fois, 2 fois, et qui ont peur d'aller pour la 3e fois, il faut savoir que vous avez des aînés en la matière. Le bac, voilà un examen très difficile. On ne sait pas ce qui se passe au cours de cet examen. Est-ce la correction qui fait échouer les élèves ou bien les élèves n'arrivent pas à bien cerner les cours retenus en classe? Qu'est-ce qui se passe exactement lors du passage de ces examens? Mais aujourd'hui, ce qui retient l'attention du directeur de l'office du bac, c'est par rapport aux corrections. Les correcteurs sont-ils bien choisis? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des indiscrétions en dehors de ce communiqué qui est sorti? Monsieur Germain Poulet, est-ce que vous avez eu des indiscrétions concernant la correction du bac?
Mais ça laisse imaginer qu'il y a une certaine préoccupation, des inquiétudes sur la façon dont le bac est corrigé tous les ans. Vous savez qu'il y a très souvent des soupçons de fraude, des épreuves qui sont vendues, la corruption, la complaisance de certains enseignants, même si officiellement la correction se fait dans l'anonymat. Même au niveau de la surveillance, déjà, c'est beaucoup de problèmes. Et donc, je crois que on ne veut pas rendre public les raisons préoccupantes qui font que l'office alerte déjà et prend des dispositions pour pouvoir assurer une surveillance et une correction assez transparente donc de cet examen qui reste aujourd'hui la porte d'entrée dans la vie active, même si parallèlement il y a d'autres formations au niveau des lycées techniques, au niveau même de l'apprentissage professionnel parfois dans le privé ailleurs. Mais officiellement c'est le bac. Avant, il y a quelques années, c'était le BPC. Un peu plus tard, dans les années 50-60, le CPD était la porte d'entrée. Donc aujourd'hui, le diplôme qu'il faut avoir pour espérer avoir une chance de s'engager dans la vie active ou dans les filières sans trop de difficultés, donc c'est le bac. Et tous les parents donc travaillent à ce que leurs enfants aient le bac. Et c'est le diplôme qu'il faut décrocher absolument. Et vous verrez que donc, dans ce sens-là, certains cherchent des raccourcis pour ne pas trop veiller la nuit, pour ne pas trop travailler. Et donc, au niveau de la correction, ça reste quand même un point assez sensible. Il faut veiller à cela. Et de la correction dépend généralement le taux de réussite donc au bac. Et avec ce taux, on a une idée de la qualité de l'enseignement dans le pays. On a une idée aussi des performances des élèves dans les collèges. Et donc, il faut que cette étape-là se déroule très bien. Mais un peu peut-être en amont, je crois que là aussi, ils ont pris des dispositions. Les surveillants sont astreints aussi à des obligations.
C'est ça.
Par exemple, le téléphone portable, un certain nombre de choses aujourd'hui, je crois que c'est interdit pour ne pas aider les apprenants, ne pas leur faciliter la tâche et permettre qu'ils soient évalués à leur juste valeur et s'ils sont aptes à aller franchir donc cette étape-là qu'ils le fassent. Et espérons que les mesures soient effectivement prises pour que les plus méritants en passent et que ceux-là qui ne sont pas forts peut-être prennent, se préparent pour la fois suivante. Mais en même temps, notre vœu, c'est de voir le taux des réussites augmentées, parce que c'est, derrière ça, c'est beaucoup de souffrance pour les parents. Les études, ça coûte énormément cher. Il ne s'agit pas d'acheter le kaki, les fournitures scolaires, mais c'est déjà de déplacer l'enfant chaque jour, c'est déjà de le nourrir, c'est déjà pour certains de prendre un répétiteur pour lui, ou des répétiteurs selon les moyens pendant toute l'année. Donc ça fait énormément de dépenses et on a envie quand même qu'à la fin de l'année, on voit son enfant avoir accès aux études supérieures. Et voilà pourquoi tout cet examen-là, c'est complexe. Et mais en même temps, la transparence est une chose importante.
Merci beaucoup. Et Gabin, quelle analyse faites-vous à la lecture de ce communiqué du directeur de l'Office du Bac?
Oui, vous savez, si l'Office du Bac sort quand même ce communiqué, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont eu à faire des constats, qu'il y a des errements de la part des correcteurs. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sortent quand même ce communiqué pour dire que c'est une manière de dire aussi que c'est la vie des élèves qui se jouent, c'est la vie des futurs étudiants qui est en train de se jouer. Donc, il ne faut pas être distrait par rapport à la correction. Il faudrait qu'un élève, par la faute d'un enseignant, échoue, mais il va falloir les notes que ces élèves vont obtenir soient véritablement méritées. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose. Vous savez, ça ne dépend pas que des correcteurs, mais aussi des étudiants, des élèves surtout, parce que la plupart du temps, il y a de ces élèves-là qui pensent que, bon, ce qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas eu véritablement la note qu'il convient d'avoir. Donc, l'Office du Bac essaie de faire en sorte que les errements, les manquements soient éradiqués au moins. Ça ne peut pas être à 100% quand même, mais au moins à 99% pour que les élèves ne soient pas entre griffes volés dans leurs efforts. Donc moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose. L'Office du Bac est en train de faire sa part. Maintenant, c'est aux élèves aussi d'arriver à faire leur part, à bien travailler, afin que, bon, à la fin, la réussite soit leur couronne. Donc pour moi, je pense que toute institution qui se veut assez sérieuse doit prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce que les usagers de son service soient à l'aise. Et je pense que c'est ce que l'Office du Bac vient de faire en voulant mettre quand même les élèves en confiance que, bon, voilà, ceux-là qui vont corriger vos copies, ce sont des gens assez sérieux qui prennent en compte votre avenir. Donc maintenant, vous travaillez très bien pour que les notes que vous aurez à obtenir soit des notes véritablement méritées. Donc maintenant, la balle est dans le camp des élèves là, parce que vous savez, même dans nos classes, il y a toujours de ces erreurs. Parfois, là, il y a des corrections qu'on fait, il y a des notes que tu ne mérites pas. Parfois, même l'enseignant omet de corriger certaines pages. Donc, c'est à toi d'amener ça vers l'enseignant pour dire non, monsieur, voilà telle chose. Il faudrait que ces choses-là soient éradiquées lors des corrections pour que les élèves ne se sentent pas lésés dans les notes obtenues, que véritablement ils se disent voilà ce que j'ai eu comme note. Je suis sûr et certain que si je réussis, c'est parce que j'ai bien travaillé, c'est parce que la note que j'ai obtenue, je la mérite vraiment. Mais si j'ai échoué aussi, c'est parce que la note que j'ai obtenue n'a pas été suffisante et que je l'ai véritablement méritée.
Firmin Teko, nous savons très bien qu'au Togo, le taux de réussite du baccalauréat 2024, deuxième partie bien sûr, c'était 41,95%, une baisse par rapport à 79,43% le bac 2023. Est-ce pour vous dire, par rapport à ce communiqué du directeur de l'Office du Bac, mais les correcteurs ont été trop durs au cours de la correction du bac 2024, donc il est en train d'attirer leur attention, de corriger les copies telles quelles, ou bien il a constaté des notes de complaisance par endroit, affirmé.
Non, moi je voudrais dire deux choses. Première chose, ça peut être des deux côtés pour répondre à votre question. Peut-être si les autorités sont parvenues à ce niveau de réaction, je me dis peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Et peut-être ce n'est pas tout ça là qu'on a déballé dans le communiqué. Et qu'à l'avenir, on voudrait que les choses se fassent dans les normes pour qu'on n'ait pas trop de problèmes. Jamais Pouli l'a dit tout à l'heure, les études ça coûte cher. Mais il a oublié d'ajouter quelque chose. Les études ça coûte cher à l'État. C'est des milliards que l'État dépense pour les études. Il ne sert à rien de dépenser des milliards et après avoir des résultats médiocres. C'est des milliards que l'État dépense pour notre éducation. L'éducation, on peut le dire, est presque gratuite par endroit au Togo. Donc, il faut que les choses se fassent dans les normes. La deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est que bon, il faut arriver à démystifier le bac. Il faut démystifier le bac. Ouais. Parce qu'en réalité, vous savez, pour réussir dans la vie, Il y a beaucoup qui ne réussissent pas les études.
Ouais.
Il y a beaucoup qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui sont des milliardaires.
Mmh.
Et moi, quand vous lisez des choses, la plupart des riches sont qui ont moins de diplômes. C'est ça, en fait. Moi, je ne sais pas que j'encourage les gens à ne pas fréquenter.
Mmh.
Peut-être vous êtes appelés à avoir de grands diplômes pour pouvoir réussir. Mmh. Mais ce que nous constatons, c'est que vous parlez de 41%. Moi, de notre temps, quand moi, j'ai passé mon bac, j'étais 35%. Pour d'autres à l'époque, peut-être c'était 29%.
Mmh.
Ouais, c'est parce qu'on avait entouré le bac d'un certain mythe.
Mmh.
Il y a des gens qui ont réussi avec brio au bac, mais pratiquement, qui sont pratiquement rien aujourd'hui dans la vie.
Ouais,
ils sont pratiquement rien.
Mais il y a des cas isolés, mais c'est des cas isolés.
Oui. Mais il y a des gens qui peut-être n'ont que le CPD, mais qui ont réussi parfaitement leur vie. Juste dire qu'en réalité, il faut fréquenter. Du moment où vous avez la possibilité de fréquenter, il faut fréquenter. Mais il faut que les choses se passent dans les normes, c'est-à-dire il faut enlever ce mythe-là qui entoure le bac, que les professeurs ou les correcteurs fassent bien le travail, que ceux qui doivent corriger, corrigent dans les normes. Il ne faut pas avoir cet esprit de rendre les choses plus difficiles pour les élèves. Si l'étudiant ou l'élève, le futur étudiant, mérite la note, il faut la lui donner, simplement. Donc, pour vous, les enseignants qui composent des sujets, il faut composer des sujets abordables. Il ne faut pas dire, faut pas avoir l'esprit, on veut corser, on veut coincer les élèves. Et on donne des sujets et s'attendre à ce que tout le monde, ou presque la majorité, ait moins de notes, c'est-à-dire est en bas de 10. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Mais il faut faire les choses normalement, que chacun, de son côté, joue sa partition. Pour que à la fin de la journée, on puisse avoir un résultat acceptable. Parce qu'il ne sert à rien de dire au Togo le bac là, quand tu passes le bac, c'est toi le meilleur, 29%. Oui, ça veut dire non, le Togo est un bon système éducatif, ça ne veut rien dire.
Non, attends, fille, mais je crois que mais toi qui as eu à passer le bac avec ce pourcentage, tu as réussi. Mais est-ce que tu n'es pas fier de toi aujourd'hui après avoir réussi un bac entouré de Miss?
Non, cette fierté, moi, je ne veux pas l'avoir. Cette fierté, non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir, vous imaginez. Il y a des gens qui n'ont pas eu le bac, c'est cette année peut-être qui a mieux réussi que moi. Mais moi c'est ça, en fait, ce mythe, il faut que nous débarrassions de ce mythe. Il faut que les choses se fassent dans les normes. Peut-être à l'époque, si on avait fait les choses dans les normes, mais peut-être nous avons eu peut-être 55%, 60%. Parce qu'à l'époque de notre temps, mais c'est on dit, peut-être, vous voyez les sujets, c'était difficile même d'avoir 10 en français.
Mmh. Ouais.
10, vous avez 10 en français, mais ça veut dire que vous faites être des meilleurs. C'était difficile d'avoir 11 en anglais. Vous comprenez? Est-ce que c'était la bonne méthode? Mais aujourd'hui, moi, je dis simplement que les choses soient dans les normes, que ceux qui corrigent dans les normes, que ceux qui composent des sujets dans les normes. Il ne faut pas avoir l'esprit. Moi, je veux saquer, je veux coincer les futurs étudiants. C'est comme ce qui se faisait. Regardez, par exemple, c'est pas pour me sortir du sujet, mais à l'université, dans certaines facultés, avant que vous n'ayez droit, vous n'ayez trois même dans certaines matières, c'était mal difficile. Et puis, parce qu'on dit, le prof là, lui, c'est zombie, en fait. Donc, on a peu de lui, on a peu de lui. Au finish, il n'y a rien derrière, quoi. Il faut sortir de cet esprit africain pour faire les choses. Non.
D'accord. Hey, monsieur Rossama, vous êtes juriste, défenseur des droits humains et communiqué pondu par le directeur de l'office du bac à l'endroit seulement des correcteurs. Est-ce qu'il n'est pas quelque part en train de dédouaner les élèves là qui, entre guillemets, n'auraient rien appris, qui se présenteraient au bac?
Première précision, c'est que quand vous prenez le baccalauréat, le diplôme de baccalauréat, c'est le premier diplôme universitaire.
Ouais.
C'est-à-dire que toutes les structures qui sont chargées de l'organisation, du suivi et tout ce qui concerne les préparatifs de l'examen du bac, tous ces services-là sont rattachés au ministère de l'enseignement supérieur.
Ouais.
C'est-à-dire vous avez l'office du baccalauréat qui dépend donc du ministère de l'enseignement supérieur. Ça veut dire que tout le processus est conduit depuis le début de l'année jusqu'à la fin, par l'office du bac qui doit prendre toutes les mesures idoines pour que tout soit fait dans les règles de l'art. Si aujourd'hui ils sortent un communiqué en indexant le doigt au correcteur, ce qu'à un moment donné, leur système qu'ils ont mis en place a failli. Je vais vous expliquer. Quand vous prenez le choix des correcteurs, est-ce que vous savez que dans le processus qui a été mis en place, c'est l'école qui propose les enseignants dans les disciplines respectives. Oui. On a fait en sorte que les enseignants soient proposés de façon rotative. Mm-hmm. C'est-à-dire que si vous êtes 5 professeurs d'une matière comme l'histoire et géographie, mm-hmm. et on a besoin juste que votre établissement propose 2 mm-hmm. à l'inspection de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que l'année prochaine, on fera en sorte que les 3 autres qui sont restés, mm-hmm. qu'on puisse en proposer 2 autres. C'est-à-dire que vous avez l'office du baccalauréat mmh. qui entretient une base de données. Mmh. C'est lui qui gère la base de données. Mmh. Mais vous voyez, le processus est clair, il est net. Mmh. Mais vous vous rendrez compte que certains enseignants qui sont dans les lycées, mmh. qui n'ont pas été proposés par leurs établissements, mmh. parce qu'ils ont des bras longs au niveau de l'office du bac, parce qu'en réalité, mmh. quand vous prenez... Les différentes branches qui s'occupent donc de l'organisation de l'examen, notamment au niveau de l'office du bac, il n'y a que des docteurs, des professeurs d'université. Parce que vous avez un enseignant qui enseigne dans une discipline, dans un lycée, il n'a pas été retenu par son principal, c'est-à-dire par le proviseur. Et parce qu'il connaît un directeur, un proviseur, on l'appelle que ah, c'est comme ça, je suis dans telle école, est-ce qu'on peut m'insérer dans la base? Et là, on le sait. Il y a des cas. L'office du bac ne peut pas démentir ça. Ils ont inséré des gens qui n'ont jamais été proposés par leur établissement. Mmh. Et donc, vous comprenez que quand déjà, à la base, mmh. le système a failli, parce qu'eux-mêmes, ils ont établi un certain nombre de critères. D'abord, pour être correcteur du bac, je pense qu'il faut avoir, totalisé un certain nombre d'années mmh. d'enseignement. Il faut avoir un certain nombre de qualité. Mmh. Et donc, si vous ne remplissez pas ça, il faut tenir la classe de terminale. Ouais. Donc, vous allez voir même, au niveau donc de la correction de l'examen du bac, des enseignants qui ne tiennent pas les classes de terminale dans leur établissement. Mais parce qu'ils connaissent quelqu'un au niveau de l'office du bac, mmh. ou quelqu'un qui est associé à l'organisation, à la gestion du bac, on le place dans la base et c'est eux qui vont aller enseigner. Mmh. Deuxième élément, vous savez que depuis un certain moment, nous avons introduit un nouveau système d'approche, on appelle ça APC, mmh. approche par compétence. Mmh. Je pense que si l'approche n'arrive pas cette année en terminale, mmh. ça doit être l'année prochaine, mais je pense que ça doit être cette année. Mmh. Donc il y a une manière d'enseigner, mmh. il y a une manière de corriger. Mmh. C'est-à-dire, avant même que vous ne corrigez les copies des enfants, on vous fait un débrief. C'est-à-dire que vous avez un entretien, et puis on harmonise.
Et un corrigé type.
Voilà, donc on harmonise la manière dont vous corrigez. Mmh. Non seulement c'est corrigé dans l'anonymat, mais on harmonise la manière dont les corrections se font véritablement. Mmh. Et donc, en réalité, vous corrigez dans l'anonymat. Et on fait en sorte que, si vous êtes enseignant et que vous corrigez un lot de copies, il y a un autre enseignant qui doit le vérifier. Est-ce que vous avez bien corrigé ou pas? Mais est-ce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de correction? Parce que ce n'est pas un problème de correction, c'est un problème de gestion au niveau de l'office du bac. C'est-à-dire que ceux qui sont là-bas, au lieu de respecter les critères qui ont été établis depuis de longues années, ils font du copinage, du favoritisme, du népotisme, et tout cela. Et là, vous mettez à nu vos difficultés, vos défaillances, et vous voulez porter le probe sur les pauvres enseignants qui n'ont rien à voir avec ça. Et le troisième aspect, si vous permettez, je vais terminer là. Mais finalement, je suis souvent étonné de votre approche. Le baccalauréat, c'est le premier diplôme universitaire. C'est pas un diplôme qu'on peut banaliser comme n'importe quel diplôme. Nous sommes dans des systèmes éducatifs africains où nous avons des défis à relever. Et donc, peut-être qu'il faut qu'il fasse une différence entre l'instruction, parce qu'on va à l'école pour s'instruire, on va pas à l'école pour avoir le diplôme, avoir du travail. C'est pas automatique. C'est-à-dire que vous pouvez être instruit et ne pas avoir les aptitudes pour trouver le travail dans votre domaine de formation. Là, c'est un autre débat. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le diplôme. Et puis vous sortez quelqu'un qui a peut-être un diplôme moins supérieur que vous parce qu'il a un certain nombre d'aptitudes et trouvez du travail. Et donc, le fait que le bac soit considéré comme le premier diplôme, c'est parce qu'en fait, quand vous arrivez à l'université, que vous arrivez à faire un certain nombre de filières, pour faire les formalités pour avoir la licence, on vous demandera le bac. Pour faire les formalités pour avoir le master, on vous demandera dans la composition du dossier le bac. Pour faire les formalités pour avoir le doctorat, on vous demandera dans ces trucs le bac. Mais allez-y à l'université aujourd'hui. Voyez-vous les élèves qui sortent des lycées, voyez leur niveau. Voyez leur niveau. Pourtant, le taux de réussite au bac a évolué considérablement. Ouais. Et aujourd'hui, on a introduit l'approche par compétences. Le taux va encore augmenter. Mmh. On aura des élèves à l'université, je vous assure, j'ai déjà vu des élèves qui ne savent pas aligner deux phrases, des élèves qui ne savent pas écrire, mmh. des élèves qui ne savent pas s'exprimer. Et donc, c'est normal que quand vous sortez de tel parcours, que vous ayez toutes les difficultés pour vous insérer professionnellement. Donc, le mal, en fait, c'est au niveau de l'office du bac. Ce n'est pas une question de correcteur, parce que c'est eux qui gèrent le système relatif donc à l'organisation.
Merci, Samir.
Ce que Samir dit, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que c'est vrai à 100%, parce qu'on ne peut pas remettre en cause quand même la capacité de ces autorités-là, notamment la direction des examens et concours et des certifications. Ceux-là qui quand même essaie de choisir les correcteurs, parce que dans chaque matière, les correcteurs sont choisis. Mmh. Ce ne sont pas des gens qui travaillent durant toute la procédure de correction des copies. Mmh. Non. Chaque matière a un certain nombre de correcteurs qui sont quand même des enseignants de ces matières-là. Mmh. Et pour devenir correcteur quand même, pour être choisi correcteur, mais il y a des critères. Au moins, il faut avoir la licence dans la matière enseignée.
Oui, là, je reviens sur ce communiqué, le communiqué du directeur de l'Office du Bac par rapport à l'éligibilité. Il dit éligible à la fonction du correcteur. Plusieurs conditions doivent être réunies. Et là, l'enseignant doit notamment disposer du niveau requis, encadrer une classe de terminale pour l'année en cours, être affilié à un seul établissement scolaire et justifier d'au moins de 3 années d'expérience dans l'encadrement des classes de première et terminale.
Voilà, donc les critères que tu viens de citer. Oui. Maintenant, vous savez, chaque État a quand même la prérogative de choisir les citoyens qu'il veut former ou bien des citoyens qu'il veut avoir dans l'élite pendant peut-être dans les 10 ans, dans les 30 ans, dans les 20 ans qui viennent. Mmh. Maintenant, est-ce que l'État arrive à faire l'effort nécessaire pour que les élèves là aient la matière nécessaire? Parce que moi, je me pose beaucoup de questions quand on parle du niveau de nos étudiants aujourd'hui. C'est vrai, il y a des étudiants même qui ne connaissent pas leur ministre de tutelle. Il y en a plein. Mais j'ajoute ça un peu à la non-culture des élèves, des élèves qui ne s'intéressent même pas à un certain nombre de choses. Pour eux, je vais à l'école. Est-ce qu'ils connaissent même l'essence de l'école où ils vont? C'est ça aussi le problème aujourd'hui. Donc, pour moi, je pense qu'il faut faire table rase de tout et essayer quand même de poser les jalons, les bons jalons quand même de l'éducation de nos élèves, parce qu'il y a un véritable problème aujourd'hui. Moi, j'ai eu le bac où le pourcentage était à 38,09% en 2008. Vous pouvez aller consulter. Mais quand on sortait, ben, on était fiers. Et puis, on se disait, ben, ça a été difficile, mais on est sortis. Bon, nos grands frères avant ont proclamé même leur résultat à la radio, à Radio Lomé, Radio Cara. Ben, si tu entends ton nom, là, tu es devenu quelqu'un.
Heureux d'être un bon combattant, là.
Dès que tu sors déjà, du lycée, tu es considéré comme une élite. On avait même peur même des étudiants plus que les gendarmes à ce moment-là, parce que ce sont des élites du pays. Mais aujourd'hui, il faut voir le niveau quand même de ces élèves-là. Et encore que ce sont des petits aujourd'hui à l'université. Tu vois un enfant de 20 ans, dit bon, il a sa licence, alors que nous, avant, ben, il faut avoir 25 ans dépassé, autre là, avant d'espérer avoir la licence. Donc, à un moment donné, les enseignants ont été certes durs, mais c'est compte tenu de ce que l'État voulait pour notre pays. Et avant nos grands frères, même, c'était encore plus compliqué avec nos parents. Mais avec le CEP, tu les entendais, ils parlaient allemand, ils parlaient français, ils parlaient beaucoup de langues et autres. Là, ils étaient très des experts. Et ce sont eux-mêmes qui écrivaient, qui avaient les plus belles écritures, qu'on les appelle même les calligraphes. Mmh. Donc, je pense que c'est à l'État de choisir le type de citoyen qu'il veut. Et pour le moment, l'État ne fait pas du tout son travail.
Germain Pouli, je reviens vers vous par rapport à ce communiqué. Mais est-ce que vous avez une idée sur ce qui est payé à ces enseignants? Parce que la correction, ça ne dure que peut-être 2 semaines, alors que l'enseignant aurait enseigné toute une année avec son salaire. Mais qu'est-ce qui sous-tend vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le montant ou bien les indemnités qui sont payées après la correction qui sont vraiment intéressantes?
Non, là, franchement, je ne maîtrise pas.
Non, je pense qu'ils sont payés autour de 127 000.
Les conditions dans lesquelles ils sont payés, mais globalement, les enseignants sont les fonctionnaires les mieux payés
aujourd'hui
au Togo. ils n'ont pas à s'en plaindre. Je ne pense pas. Les agents de la santé se battent un peu pour être un peu à leur niveau. Mais avec les primes, les enseignants sont les fonctionnaires les mieux payés. Bon, c'est vrai que l'argent ne suffit pas toujours. Quand on gagne plus, la besoin augmente. Donc, on pourrait toujours demander. Et quand on prend les travailleurs les mal payés, ce sont les journalistes.
Ah oui, oui.
Ah oui, mais on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. On est là, on parle des autres, mais c'est la vraie galère.
Peut-être chez les journalistes du privé, sinon les journalistes des médias publics sont bien payés.
Mais il y a combien de médias publics ?
Pas bien, ça va. Ça va chez eux, c'est mieux que dans le privé. Mais dans le privé, c'est dans la presse privée, c'est vraiment difficile. Donc je profite de ces enseignants-là quand même pour dire à l'État aussi de penser à nous. Nous sommes un peu des enseignants aussi, si nous formons l'opinion. En nous informant, en nous faisant un travail qui a de l'impact donc sur nos communautés. Donc, je n'ai pas une idée, mais je pense que c'est un travail assez délicat. C'est beaucoup de responsabilité que de déterminer de l'avenir d'un élève. Et donc, il faut que ceux qui corrigent soient suffisamment bien payés. Pour qu'ils ne soient pas tentés aussi de violer l'anonymat pour essayer d'accorder des notes qui ne devraient pas à certains élèves, qu'ils ne soient pas tentés, malgré les mesures qui sont prises dans de faire de la fraude. Il faut qu'ils soient bien payés. Là, j'ai aucune idée. Mais en même temps, je vais revenir un peu sur le bac. Le bac, c'est un diplôme international.
Ouais.
Ce n'est pas une création du Togo. Vous avez le bac aujourd'hui, vous pouvez aller dans des universités dans plusieurs pays, presque dans la totalité des pays.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est des États qui se sont entendus sur un diplôme. Vous allez voir même qu'en Afrique, on a harmonisé un peu le bac.
Ouais.
Avant, les gens quittaient ici pour aller au Bénin pour dire que le bac est facile au Bénin.
Mais ils reviennent.
Voilà, donc, après, vous allez voir que nos pays se sont entendus pour déjà organiser les examens dans les mêmes périodes.
Les mêmes périodes.
Pour éviter que les élèves... Oui. Passe plusieurs examens et après pour harmoniser aussi les épreuves. Donc, c'est un diplôme international qui a sa valeur partout. Et vous verrez que dans toutes les pièces qu'on demande, généralement, on demande le bac. On peut ne pas demander d'autres diplômes, mais on veut s'assurer que tu as un niveau académique acceptable. Et le minimum qu'on demande, mais avant, c'était le BPC. Dans nos pays en interne, il y a des gens qui sont allés faire des études en Europe, sans le bac, au Togo à l'époque, les études supérieures. Mais aujourd'hui, c'est le minimum qu'on demande. Mais après, on peut aussi, Firmin l'a dit, c'est pas les études qui font la réussite professionnelle, c'est vrai. Mais c'est une base assez solide qui vous donne une ouverture sur plusieurs choses. Et maintenant, globalement, sur l'enseignement, est-ce que dans nos pays, c'est pas trop compliqué ce qu'on nous enseigne? Est-ce qu'il faut pas alléger tout ça, parce qu'on apprend beaucoup de choses qui ne nous servent à rien, qui ne nous serviront même à rien toute notre vie. Des choses que les gens étudient juste pour avoir les notes, et ils oublient ça après, parce que ça n'a aucune utilité. On parlait de la philosophie hier avec des amis, comment on nous a terrorisés avec la philo, avec un coefficient 4.
C'est dur, hein.
En série 4, si tu as moins de 8 en philo, tu es en danger.
Voilà.
Comment combler le trou là, tu es bien parti pour échouer et tout ça, est-ce que c'est tout ça est utile aujourd'hui, est-ce que nos pédagogues ne peuvent pas sortir autre chose qui nous prépare au métier de l'avenir, les choses évoluent tellement vite aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, certains même vont loin pour dire qu'on n'a même plus besoin d'enseignants, parce qu'on peut, même s'il y a des limites, il y a des garde-fous. On peut donc, est-ce qu'il ne faut pas déjà dévancer ça, surtout dans nos pays africains où on a été longtemps amené à étudier des penseurs occidentaux, à étudier la géographie de plusieurs pays, la carte agricole de tout ça. Vous voyez, maintenant il y a des études supérieures pour lesquelles on a besoin quand même d'être formé dans certaines matières. Et même là aussi, encore un autre débat, peut-être les pédagogues réfléchiront, les séries telles qu'on nous les impose, quand tu fais telle série, tu ne peux pas prétendre faire d'autres des études supérieures dans certains domaines, parce qu'on estime que tu es littéraire, tu n'es pas suffisamment scientifique et tout ça. Peut-être qu'il faut penser assez rapidement au moment où l'Afrique essaie de se réveiller. de voir aussi au niveau de l'éducation si on ne peut pas faire des réformes assez profondes.
Voilà, je voulais ajouter juste deux éléments. Oui, parce que comme vous prenez tous les examens organisés, le CPD, le BEPC, le bac 1, le bac 2, c'est le bac 2 qui est le mieux payé. Donc c'est pour ça que tous les enseignants du secondaire, deuxième cycle, veulent converger vers là. Voilà. Le deuxième élément, c'est que quand vous prenez le système de choix des enseignants qui doivent corriger le bac, vous voyez que les responsables des lycées jouent un rôle primordial. Et donc, quand vous avez des enseignants que vous envoyez à l'affaire, ils vous donnent une certaine ristourne. Vous gagnez un peu. Donc, puisque vous gagnez un peu sur eux, vous faites en sorte que chaque année, vous les envoyez. Donc, c'est vraiment un système de corruption qui est mis en place et qui ne permet pas de donner les mêmes opportunités à ceux qui remplissent les critères au niveau donc de ce système.
Voilà, le bac, cet examen, nous en parlons ici. Il faut avoir réussi un bon bac pour devenir un bon politicien aussi. Ça, il faut le noter. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas que le bac qui se prépare dans quelques semaines. Il y a également les élections municipales qui se préparent et les candidats sont appelés à s'inscrire au niveau des listes justement pour briguer à ces élections. C'est pour ça d'ailleurs que dans les préparatifs des élections municipales à venir, on est en train de noter ça et là les incohérences ou bien pour certains partis politiques, ce n'est pas ce qu'ils veulent, ils ne sentent pas justement une bonne préparation. C'est pour ça d'ailleurs que dans un communiqué rendu public hier, rendu public ce vendredi, bien sûr, ce vendredi 23 mai, la dynamique pour la majorité du peuple DNP fustige la publication tardive du décret fixant justement le nombre de conseillers municipaux qualifiés de violation des principes démocratiques. Face à une série d'irrégularités entachant le processus électoral, la DNP exige un report de 6 mois des élections municipales de 2025 et appelle justement à une mobilisation pour garantir un scrutin équitable et transparent. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur la radio Canal FM. La DNP tient à exprimer son étonnement face à la publication tardive de ce décret numéro 25-003 du PC du 21 mai 2025 fixant le nombre justement de conseils. Et hier déjà dans la parution du journal La Nouvelle Tribune de notre confrère et l'homme attitué, il y a une très belle interrogation vers un report. Pendant ce temps, dans Togo Matin d'hier, un pas décisif vers des municipales inclusive. Lui, Togo Matin parlait justement de cette baisse de taux de la caution des candidats. Alors, qui est au tableau, au plateau aujourd'hui? Je m'adresse à Firmin Teko Agbo, c'est bien ça? Maintenant, j'ai bien prononcé le nom. Par rapport à ce report que demande la DNP, est-ce que le report peut faire l'affaire ou bien doivent-ils se préparer justement pour aller à la date fixée?
Je pense que la DMP n'est pas la seule structure à avoir demandé le report. Même au niveau du CPC, on a parlé du report. On avait évoqué deux choses par rapport à la caution. Je pense que pour la caution, c'est un peu réglé. Et aussi pour le report, on ne s'est pas encore prononcé. On a besoin de report. Ces opposants, peut-être, ou les partis politiques ont besoin de report pour mieux se préparer. Mais je me demande ce que ça va leur apporter véritablement.
Comment mieux se préparer? Parce que les élections municipales dernières ont daté, ça fait bientôt 6 ans déjà. Est-ce que c'est maintenant il faut se préparer?
Non, il faut faire. Bon, ils ont raison, ces partis politiques, parce que vous savez, ils ont passé assez de temps à critiquer la 5e République. Et aujourd'hui, on parle du 10 juillet. Le 10 juillet, c'est juste à deux pas. Hein. Nous sommes en mai, presque fin mai. Donc, juillet, donc moins de 2 mois. Donc, ils ont, c'est normal qu'ils parlent de 6 mois. Mais je me demandais même si on leur accordait 6 mois, même 1 an. Il ne fera pas grand chose sur le terrain. Il ne fera pas grand chose. Il faut donner leur 2 ans, ils ne feront rien. L'UNI va encore s'en sortir avec plus de 80%.
Ah bon? Vous êtes président de CENI là?
Non, c'est-à-dire quand vous faites un peu la lecture démographique, la lecture géopolitique et la nouvelle carte électorale, vous faites une petite lecture. Vous savez que ce que nous avons eu l'année passée, c'est comme je m'amusais l'année passée avec Germain Pouli ici, où lorsqu'on se retrouve dans les coulisses, je lui disais qu'avant la législative, je lui disais que UNI va avoir au moins 90, 100 députés. Germain Pouli n'était toujours pas d'accord, il disait que non. C'était trop, on a vu ce que ça donnait. Parce qu'il suffit juste de jeter un coup d'œil sur la carte électorale. UNI travaille sur le terrain. Vous savez, au moment où UNI, les opposants, au moment où eux, ils passent leur temps à traiter le régime de un régime conservation de pouvoir, un régime qui a trop duré, quand UNI est dans les localités et ne parlant même pas de ses opposants, vient apporter un peu de vie, vient peut-être célébrer une messe ou aider à célébrer une messe avec les gens. Donc, c'est-à-dire, UNI fait de la com régulièrement. UNI fait de la com, UNI est dans les messes, UNI est dans les mosquées. Mais on veut pas parler politique. On veut prier avec vous. Parce que vous savez, oui, c'est une politique de proximité que UNI fait. Et en ce moment-là, l'opposition passe tout son temps à critiquer la 5e République. Oui, ils sont au pouvoir depuis longtemps, tout ça. Quand on fait tout ça, là, donc tout votre temps, vous le consacrez peut-être à ce qui n'est pas utile. Et ceux-là que vous combattez, ils prennent leur temps, ils consacrent tout leur temps à ce qui est utile. Donnez-leur 2 ans, ils feront rien. Donnez-leur 3 ans, ils feront rien avec les élections. UNI va encore gagner avec plus de 80-90%.
Ah mais, ça va, c'est vrai, je suis en train de suivre un peu, je suis un peu perplexe par rapport à ce qu'il dit. Mais nous savons très bien que UNIR détient le pouvoir. Et celui qui détient le pouvoir, on dirait que c'est lui le papa de la maison. Et de temps à autre, il sort des règlements, il dit, mais c'est ça que vous devez respecter. Est-ce que c'est par rapport à ça que l'opposition, chaque fois, elle n'est pas d'accord avec certains règlements que prend justement le parti au pouvoir?
Mais vous savez, le socle du passage du Togo d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel en régime parlementaire, c'était qu'on puisse instaurer une stabilité politique. C'était ça l'objectif. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une approche de faire en sorte que les querelles politiques, les mésententes politiques, les critiques politiques fassent place à une stabilité politique pour parler développement, pour mettre en œuvre les politiques publiques et soulager le bien-être des populations, on fait en sorte que les élections soient des élections crédibles, inclusives et apaisées. Le cadre permanent de concertation s'est réuni. L'un ou la plupart des sujets qui ont été évoqués, c'est qu'on puisse recomposer la CENI. Et ça, c'est pas une demande politique. Ça se base sur le droit. Le code électoral dit que les membres de la CENI sont élus pour un mandat d'un an renouvelable. C'est simple. Les membres actuels sont là depuis 2022. Il faut qu'on renouvelle et qu'on aille aux élections inclusives, apaisées et tout. Le deuxième élément, Firmin parle de report impossible. Mais il y aura un report. Parce qu'en fait, la CENI a ouvert la réception des candidatures avec les dispositions antérieures. C'est-à-dire que la caution fixée pour les candidats était de 50 000. Et là, il y a une décision qui vient dire qu'en fait, ce n'est plus 50 000, c'est 20 000.
La moitié, 25 000 pour les hommes
et 20 000 pour les femmes.
Non, 12 500
pour les femmes. Ça veut dire qu'en fait, il y a une donne qui change. Donc, il faut permettre aux candidats, aux potentiels candidats, d'avoir un temps supplémentaire pour pouvoir s'organiser de nouveau. Et donc, il y a certains qui, par rapport à la caution antérieure qui avait été fixée, n'ont pas prévu se présenter dans certaines communes. Et voilà que la caution a été diminuée. Ça leur permet d'envisager d'autres objectifs dans certaines communes. Parce qu'en fait, quand vous prenez les élections, quand vous prenez les élections législatives, la circonscription électorale pour les élections législatives, c'est la préfecture. Quand vous prenez les élections régionales, la circonscription pour les élections, la circonscription électorale pour les élections régionales, c'est la région. Mais quand vous prenez les élections municipales, la circonscription électorale pour les élections municipales, c'est la commune. Ça veut dire que dans une préfecture, nous avons plus de 4 communes. Et que dans chaque commune, les candidats qui vont se présenter ne seront pas les mêmes dans une autre commune. Ça veut dire qu'il y a une pléthorique de candidats. Donc c'est beaucoup. À l'échelle nationale, ça représente beaucoup. Donc même si vous payez 25 000, c'est énormément d'argent que vous déboursez. Parce que vous avez des partis politiques qui vont présenter plus de 500 candidats sur toute l'étendue du territoire. D'autres vont présenter plus de 1000 parce qu'aujourd'hui, nous avons 117 communes. Et vous avez, dans certaines communes, vous avez 23 conseillers municipaux. Dans d'autres, vous avez 12. Dans d'autres, vous avez 18. Donc, la loi organise le nombre de conseillers municipaux. Comme le dit
le décret pris par le président du conseil pour revoir pour certaines communes leur nombre de conseillers augmenté. Par exemple, quand vous prenez la zone Togbelekope, je ne sais pas quelle commune qui est là-bas, quand vous prenez cette commune, avant, ils n'étaient pas à 23. Aujourd'hui, ils sont à 23 conseillers. Donc, en fait, le report, ce n'est pas une question d'augmentation ou de diminution du nombre de conseillers municipaux. Non, je pense que cet argument ne tient pas véritablement la route. Et donc, moi, ce que moi je souhaite, ce qu'on puisse faire en sorte que, dans le cadre du dialogue permanent qui est instauré, donc dans le cadre du cadre de permanence de concertation, que les discussions entre les acteurs politiques qui concourent à faire en sorte que nous allions à des élections inclusives, à des élections crédibles, à des élections apaisées, que ces mesures soient adoptées donc par les gouvernants et qu'on puisse véritablement éviter des manifestations parce que eux, là, nos amis de la DMP commencent par appeler à des manifestations et tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le même cycle tout le temps, élections, contestations, contestations, manifestations, manifestations, violence, violence, discussion, discussion, réparation. On fait de la surplace et au lieu de parler du développement, on est là à régler les problèmes politiques. Parce que quand vous prenez, je vais terminer par là, quand vous prenez au cours de ces deux dernières années, le Togo a organisé plus de 4 élections simultanées. Ça pèse sur le budget. Les finances publiques vont souffrir véritablement. Et donc, je pense qu'il faudrait faire en sorte que, par rapport à notre capacité de mobilisation de ressources, qu'on puisse échelonner un certain nombre d'élections et que cela ne puisse pas être ressenti dans la gestion donc des finances publiques. Donc je suis de ceux qui pensent qu'il y aura un report, même si ce n'est pas un report de 6 mois, mais il y aura un report véritablement, peut-être de quelques jours comme on a eu au niveau donc des élections législatives, pour permettre donc aux candidats de se préparer et qu'on puisse aller donc à des élections qui est l'assentiment donc de tous les acteurs politiques.
D'accord, Germain Pouli, selon le communiqué de la DMP, la DMP pense que ce n'est qu'une manœuvre du régime, un régime désemparé, sans base légale et dépourvu de toute légitimité. Voilà les mots de la DMP. Et puis, la DMP est en train de recenser ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la non-recomposition d'une CENI dont le mandat a expiré depuis 2023, la révision non consensuelle de la liste électorale menée dans les conditions scabreuses, laissant sur le carreau nombre d'électeurs et de candidats potentiels, et aussi la hausse, même si la hausse est revue à la baisse ces derniers temps, et la convocation du corps électoral sans publication de la liste électorale en violation des exigences du code électoral. Germain Pouli, ne voyez-vous pas que ces réclamations sont légitimes pour une élection apaisée, non contestable par tous?
Oh, moi, je crois que c'est... On est en politique, chacun fait son métier. Donc la DNP est dans son rôle. Maintenant, quand on dit que le décret a surpris, bon là, moi je suis un peu surpris. Parce que quand vous allez à une élection il y a 6 ans, vous devez vous attendre à aller à une autre élection. 6 ans après, donc, à la fin de votre mandat, donc tous les conseils municipaux, y compris ceux de la DNP, savent que leur mandat est arrivé à terme et qu'on va renouveler. Donc on ne peut pas être surpris parce qu'on invite les gens à aller à l'élection et même la date, on ne peut pas être surpris. On peut connaître plus ou moins la période. Maintenant, le report, c'est toute la classe de l'opposition qui réclame le report. Vous avez vu que les débats ont déjà commencé au CPC où on demande aussi le report parce que notre opposition globalement n'est jamais prête. On n'est jamais prête. Firmin le disait un peu à demi-mot. Elle s'occupe des choses inutiles qui ne contribuent pas à son rayonnement, à son développement. Ces derniers temps, c'est de la Constitution qui est déjà en vigueur qu'on s'amuse à attaquer, sachant bien qu'il y a le terrain où il fallait convaincre les électeurs. On reste à l'homme sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et donc, c'est... Après, les partis de l'opposition globalement n'ont pas d'argent. À partir du moment où les militants ne cotisent pas beaucoup, encore qu'ils ne sont plus très nombreux maintenant, même quand ils étaient nombreux, ils ne cotisaient pas. À partir du moment où certains de leurs soutiens ont lâché, ça devient difficile. Donc vous avez vu que les discussions autour de la réduction
du taux de la caution
s'est posée, mais en réalité, pour être conseiller municipal, 50 000, ce n'est pas trop. Parce que vous aspirez à diriger des gens, si vous n'êtes pas capable. Alors, maintenant, on comprend, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, on comprend. On veut encourager les femmes, aujourd'hui c'est 12 500 pour les femmes. Mais est-ce que ça fera que ça va augmenter le nombre de candidatures au sein de l'opposition? Je ne crois pas, parce que beaucoup de partis ont des problèmes à positionner des candidats dans les circonscriptions électorales, parce qu'on n'a pas de partis implantés sur le plan national. Les gens choisissent quelques préfectures là, et puis ils trouvent des gens qui ne sont pas forcément des militants, hein, parce que nos partis de l'opposition, la plupart, n'ont pas une assise nationale. Soit ils viennent d'un coin, le président est beaucoup plus populaire dans son coin, et puis ça reste là. Donc à l'époque, on a quand même vu des partis comme le CAR qui avaient pu réellement s'imposer après l'UFC, après l'ANC un peu, mais tous ces partis aujourd'hui sont revenus vers les fiefs de leurs fondateurs, donc ils ont perdu du terrain pratiquement. Et donc aujourd'hui, quand l'opposition demande un report, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. D'abord, ils n'ont pas été longtemps sur le terrain. Financièrement, ils ne sont pas prêts. Après, on est candidat, mais être candidat, ça ne suffit pas. Il faut aller battre campagne. Et les gens n'ont pas ces moyens-là. Ils attendent généralement le financement des partis politiques. Ce financement aussi, parfois, il arrive tardivement. Il peut arriver parfois en pleine campagne électorale déjà. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de problèmes. Mais espérons que l'opposition se voit accorder ce report-là. Parce que l'intérêt, comme le disait Samir aussi, c'est qu'on a des élections apaisées. Donc, il faut pouvoir tenir compte de toutes les préoccupations. Vous avez vu que un décret présidentiel est sorti qui a réduit donc la caution à 25 000 à 12 500. C'est-à-dire qu'on tient compte de ces revendications. Donc, la DMP apporte de l'eau au moulin des partis de l'opposition qui sont déjà au CPC, qui avaient déjà demandé un report. Et espérons que ce report-là soit accordé et que de façon équitable, chacun puisse partir sur de bonnes bases et qu'à la fin, on voit qui sera le vainqueur. Mais c'est vrai que Firmin le disait, unir est en pré-campagne pratiquement tout le temps. Donc, ça va être difficile, mais peut-être s'il y a ce report-là, l'opposition pourra s'organiser pour espérer glaner quelques sièges par-ci, par-là, à travers le pays.
Les élections, ça coûte, si je prends justement les mots du président de CPC, Maître Tiassola Traoré, les élections, ça vaut de l'argent. On parle d'une baisse de caution, mais on ne parle pas d'une augmentation de financement des partis politiques affirmés. T'es quoi, beau, pourquoi?
Oui, c'est pas prononcé.
Ah d'accord, je passe la parole d'abord à Firmin. Bon, vous allez revenir là-dessus.
Il n'y a pas de souci.
Firmin?
Non, au fait, c'est 500 millions, non?
Ouais, 500 millions pour
117 communes.
Pour 117, bon, pour ne pas parler de partis
politiques. Non, pourquoi parler de communes?
Non, c'est pas parler
de candidats. C'est 500 millions pour les futurs candidats, non?
Oui, 500
moi,
millions.
Oui, moi, je trouve ça peu. Oui, 500 millions, quand on va commencer par partager ça, bon, ça va être tellement moindre. Je pense que on parle d'élections apaisées. Moi, je ne parle pas d'apaisées, mais parce que, bon, depuis un moment, la plupart des élections sont un peu apaisées. Donc, nous saluons cela et nous voudrions qu'on soit toujours dans la même dynamique pour le bonheur du pays. Mais on parle aussi d'élections inclusives. Alors, pour plus d'inclusivité, moi, je souhaiterais qu'on augmente ça. Pourquoi ne pas mener ça à 1 milliard? Un milliard, vous savez, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est-à-dire, après les élections locales, pour organiser encore quelques élections, que ce soit au Togo, si tu es avec la 5e République, il faut attendre encore 6 ans. Et ça, en fait, c'est le charme de la 5e République. Au moins, ça apporte au moins une stabilité électorale. Vous imaginez, alors que Samy le disait tout à l'heure, avant, c'était 2 ans, élection, élection. Maintenant, avec la 5e République, les prochaines élections qu'on aura, peut-être, c'est dans 6 ans. Et peut-être on fera tout pour organiser des élections générales. Il a dit une même année, on aura les élections, les élections municipales, régionales, législatives et sénatoriales. Si on arrive à respecter ces délais, je pense que le Togo est en train de gagner en termes de stabilité électorale. Donc, c'est-à-dire on a cette année, on n'a pas dépensé en termes de présidentiel. Ça veut dire qu'il y a un peu d'argent. On a un peu d'argent. Maintenant, il faut augmenter ça pour qu'on aille à 1 milliard. Parce que chaque présidentielle, c'est 1 milliard qu'on dépense. Au moins, ce qu'on a déposé quelque part pour organiser la présidentielle, il faut qu'on aille chercher. On prend un peu dedans et puis on aide les candidats.
Est-ce que vous êtes sûr que c'est déposé quelque part?
Oui, encore faudrait-il que cette somme-là existe véritablement. Vous savez, moi, je suis un peu embêté par rapport à cette situation. Quand on est au pouvoir, on gouverne avec des tests. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, les tests ne sont pas véritablement respectés dans notre pays. Quand on parle de renouvellement de la CENU, ce n'est pas une invention de l'opposition. C'est ce qui est légal, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Mais est-ce qu'on l'a fait? On ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'on viole les tests de la République alors qu'on est au pouvoir. Et j'ai un peu de mal quand on dit que non, l'opposition n'est pas encore préparée, l'opposition n'a jamais été prête. Non. C'est faux et archi-faux. Ce sont des politiciens. Ce sont des gens qui sont dans l'arène politique depuis plusieurs années et qui travaillent à venir au pouvoir. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui ne sont pas prêts. Sauf que ce qu'ils disent, c'est que ces élections soient inclusives. C'est le pouvoir qui parle toujours d'inclusivité en toutes choses. Maintenant, quand vous organisez une élection avec une CENI illégale et que d'ailleurs, à l'approche de ces élections-là, les gens ne connaissent pas le chronogramme, mais ça pose problème. Dans les normes, si on veut faire les choses normalement, mais on devait appeler tous les acteurs politiques qui sont d'ailleurs des partenaires du parti au pouvoir, de s'asseoir autour d'une table pour voir dans quelle manière on peut permettre à cette CENI-là de continuer pour organiser les élections en attendant de changer la composition de la CENI. Mais on ne l'a pas fait. On a laissé courir comme ça. Mais vous savez, on est dans une république et il ne faut pas toujours aller au forcing. C'est pas parce que nous avons la force aujourd'hui qu'il faut toujours faire les choses en violant les tests. D'ailleurs, l'article 95 de la 5e République a prévu quoi? Que les institutions de la 5e République doivent être installées avant avant un an, non? Ouais. Dans les normes. Ouais. Mais est-ce que toutes les institutions sont installées? Est-ce qu'on a un gouvernement? Est-ce qu'on a la nouvelle HAC? Est-ce qu'on on a la nouvelle HAC plus? Qui ont d'ailleurs des attributs beaucoup plus conséquents que maintenant? Ben, ça pose un certain nombre de problèmes de respect des tests. Et quand les opposants le crient, bon, les gens pensent que non, ils en font trop ou bien parce qu'ils ne sont pas prêts. Non. Les élections municipales, ce sont des élections les moins politisées au monde. Donc, du coup, c'est beaucoup plus inclusif. Et si ces opposants la parlent, ils parlent aussi au nom des citoyens qui vont constituer des listes indépendantes. Lors des dernières élections municipales, il y a eu tellement de listes indépendantes. Ben, c'est parce que ces gens-là, les listes indépendantes, ben, eux, ils n'ont pas la voix pour pouvoir réclamer quoi que ce soit. Maintenant que ceux-là, qui sont en face du pouvoir, qui sont des partenaires du pouvoir, disent non, faisons les choses telles. En plus, j'ai l'impression qu'à chaque moment, le gouvernement fait les choses pour que, bon, l'opposition en parle et que les gens tombent sur eux. Comment vous pouvez... Une caution qui était déjà là, les élections municipales précédentes, c'était à 25 000 et 12 500, non? Ben pourquoi on va aujourd'hui ramener ça à 50 000, 25 000, pendant qu'on sait que la vie se durcit de plus en plus pour les populations? Et l'opposition en a parlé, le pouvoir a ramené ça à 25 milliards, à 12 500, pour dire que non, bon, voilà, on a écouté l'opposition. Non. Non, les choses ne doivent pas se faire comme ça. Et la seule manière, quand on dit que le pouvoir est toujours sur le terrain, non, je ne le dirai pas. Parce que le seul moyen pour un pouvoir d'exister sur le terrain, c'est de satisfaire aux besoins des populations. Quel est le bilan aujourd'hui de la gestion qui est faite jusqu'à maintenant? Qu'on nous donne le bilan et là, on va en juger. Moi, je ne dirais pas que les gens sont sur le terrain. Mais être sur le terrain, là, c'est quoi? C'est de travailler au bonheur de la population. Est-ce que la population togolaise aujourd'hui est assez heureuse de la gestion qui est faite du pays? Moi, voilà ma question.
Merci beaucoup. La question est posée. Répondra qui voudra. Un auditeur fidèle, si vous nous rejoignez, vous êtes sur la radio Canal FM dans le club de la presse et nous débattons autour du plateau avec Gabon Adjaroui, le juriste, directeur de cabinet Juris Consulting. Il y a également Firmin Teko Agbo, lui, le journaliste et chroniqueur politique, et aussi Samir Orosama, le juriste professeur des droits humains, défenseur plutôt des droits humains, et puis Germain Poli, DP du journal Togo Réveil. Voilà, donc il n'y a pas que ceux-là qui font le club de la presse. C'est également les auditeurs qui sont au bout des ondes, qui vont commencer par entrer en ligne sur le 90 86 35 35 ou bien sur le 91 36 63 75 après la pause.
Canal FM.
Retour au plateau avec, pour direction, les auditeurs qui sont au bout des ondes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. La première personne qui s'annonce, on la reçoit. Allô, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Ça va?
Basile.
Basile, vous êtes dans quel quartier?
Ligbacito.
Ligbacito, d'accord. Nous vous écoutons, Basile.
Ah. Je salue le plateau aussi. Hein.
D'accord.
Bon, pour ceux qui disent que l'opposition s'occupe des inutilités. Mm. Il veut nommer Germain Firmin. Mm. Moi, je veux, je les prierai de dire à Unie, à laquelle il croit beaucoup, là, de ne plus tabasser les gens quand ils bourrent les urnes, de ne plus faire de violence dans les élections. Mm. Et on va voir. S'ils sont sur le terrain, c'est ça qui leur permet de gagner les élections. Mais eux qui parlent comme ça, ils savent que c'est parce que le Togo est un pays où les habitants ne sont pas violents. Sinon, eux qui viennent parler comme ça, il y a longtemps qu'ils ont fait les frais.
Mais oui, monsieur Basile, est-ce que c'est les gens du Nord qui battent les gens sur le terrain?
Les choses ne sont pas comme eux, ils le disent. C'est ce que moi, je ne leur comprends pas. Les élections, on était là, c'est la violence. L'homme va, il boule. Quand tu veux aller, d'autres viennent te tabasser. Pourquoi tu veux aller l'empêcher de bourrer les huiles? Mais ils disent quoi au juste, quand ils viennent là, ils nous disent quoi? Merci à vous.
Merci Basile. Une autre personne en ligne. Appelez-nous sur le 90 86 35 35. La deuxième personne, allô? Et pas encore. Quelqu'un en ligne. Appelez-nous au 91-36-63-75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais bien.
D'accord.
C'est Nyamavo.
Ah, monsieur Nyamavo, vous êtes dans quel quartier aujourd'hui?
Ah, oui. Doumacessé.
Doumacessé, tout à fait, d'accord.
Oui. Pouli, mon frère.
Oui, vous écoute.
L'opposition n'est pas prête. C'est l'opposition qui n'était pas prête, mais qui n'était pas prête. Et vous n'avez pas organisé les élections législatives à temps. Et vous avez changé la constitution, notamment. C'est l'opposition qui n'était pas prête. Vous n'avez pas construit le peuple. Et que l'opposition a crié, vous êtes allé regrouper les chefs cantons que vous sensibilisez le peuple. Mais arrêtez ça. Pourquoi vous tirez sur l'opposition chaque fois comme ça? C'est UNIR qui fait l'amalgame. Je vais vous dire que UNIR n'est jamais prêt. Je vous avais dit, entre-temps, que le jour que UNIR sera prêt, il va vous fixer la date des élections législatives. Et quand cela était arrivé, le président Faure était à Cara. Dans son discours, je peux vous dire certaines phrases. Même si vous n'êtes pas content de ce qu'on a proposé de leur voter, il a posé le verbe unir. J'unis, tu unis, il unit. Comment? J'ai cité le chef de l'État. Il s'est fait abouder dans l'Unis. Il n'était pas prêt. Il était obligé de faire un congrès pour passer avec leur locomotive. Quand l'opposition n'est pas prête, on dit à l'opposition que la locomotive a démarré. C'est fini. T'en es dans l'ambla. T'en es dans l'arena. Ne faites pas ça. Ok, bonne émission.
Bonne condition d'écoute à vous, monsieur Nyamavo. Une autre personne en ligne. Appelez-nous sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Mauto, depuis Didjolé.
Monsieur Mauto, vous êtes à Didjolé, d'accord. Nous vous écoutons.
Salut le plateau.
D'accord, merci.
Je ne sais pas de quelle lunette monsieur Poulier, il voit les choses autrement au secours. Pourquoi il dit que le président n'est pas prêt? Moi, je ne les comprends pas.
Non, chacun essaie d'analyser l'actualité suivant un angle donné, monsieur Mauto.
Les deux juges sont abordés sur le plateau. Il faut que les choses derrière les normes, non? le pouvoir qui fait les choses très mal au Togo, vous ne les acceptez jamais. Mais c'est l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition fait? Le FPT, lui, ne peut jamais gagner une élection ici au Togo. Tout le monde le sait. M. Pimay a d'abord comparé l'Europe et le Togo et l'Occident. Est-ce qu'il y a une fois qu'on a vu en Europe, on a couru avec les unis sur les réseaux sociaux? Il y a une fois vu ça. C'est ça qu'il faut comparer, quoi. Le FPT, lui, ne peut jamais gagner une élection au Togo. C'est une fois à bas de tous les problèmes au Togo. Merci et bonne émission.
Bonne condition d'écoute à vous aussi, Maouta. Alors qu'une autre personne a dit. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Comment vous allez?
Très bien, chez vous?
Très bien.
C'est monsieur
Bertrand.
Monsieur Bertrand, vous êtes dans quel quartier?
Idranaoui.
Idranaoui, d'accord.
Voilà. Je voulais juste rappeler à monsieur Firmin et à. Aux 60 secondes, que même si l'opposition prend l'un parmi les deux aujourd'hui, comme quoi il n'a qu'à aller affronter M. Fogna Simbe dans une élection présidentielle, il va le battre. Que ce soit Firmin ou jamais Pourri. Donc, dire que l'opposition n'est pas prête, c'est comme si vous insultez la population togolaise. Parce que ce n'est pas la population, ce n'est pas l'opposition qui vote. Mais c'est la population qui vote.
Mais la population togolaise est plurielle, M. Bertrand.
Après, combien de fois nous n'avons pas gagné dans ce pays et ils sont venus. Des fois, quand vous parlez, c'est comme si vous n'êtes pas au Togo. Hein. Franchement, des fois, je ne vous comprends pas. Combien de fois ils ne sont pas allés arracher les unes? Combien de fois ils ne sont pas allés à. Comment fait-on? À Tézal pour aller empêcher les gens prendre les trucs là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse aujourd'hui? Même aujourd'hui, quand on prend un chien pour aller affronter Foro Nyatingo aux unes, le chien va gagner. Bonne émission à vous.
Bonne condition d'écoute, M. Bertrand. Appelez-nous sur le 90-86-35-35. Allô?
Hein? Bonjour.
Bonjour. Allô?
Allô?
Allô, bonjour. Nous vous écoutons votre nom et le nom de votre quartier.
Allô, ça peut aller?
Oui, ça peut aller. Nous vous écoutons.
Ok. C'est le série.
Pardon?
J'ai le cœur vraiment serré.
Ah bon? Pourquoi?
Je ne sais plus quoi dire.
Non, parlez, nous vous écoutons.
Est-ce que le jeu est égal au Togo? Est-ce que le jeu politique est égal au Togo? Nous ne voyons pas les choses et nous fermons les yeux. Donc, chers frères, prions pour avoir l'esprit, hein, l'esprit de discernement. Nous sommes tous Togolais, faisons le jeu égal. Que on dit chez nous à les familles à nous. Merci à vous.
Merci beaucoup, chers frères, chers compatriotes. Appelez-nous sur le 91 36 63 75. Une autre personne en ligne. Bonjour. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, le plateau.
Oui, votre nom?
C'est Folie depuis Décon.
Folie de Décon, hein, d'accord.
Oui. Mais nous savons que Unis travaille sur le terrain. Hein. Ça, je suis parfaitement d'accord avec mes frères journalistes affirmés pour lui là-bas. Mais le problème togolais, c'est que nos dirigeants ne laissent pas l'opposition aussi à travailler. Je donne un exemple simple. Est-ce qu'un membre de l'opposition peut aller faire un meeting à Kara?
Mais pourquoi pas?
Monsieur, tu sais ce qui se passe dans ce pays. Même il y a des villages, quand tu vas, pour demander, pour avoir une autorisation, le chef du village te dit, non, il ne t'accepte pas parce qu'il est en venir. C'est pas normal. Il faut qu'on laisse tout le monde travailler. Eux, ils ont plus de moyens. Néanmoins, laissez aussi les autres aller sur le terrain, faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils puissent avoir aussi leurs partisans. On les bloque. Ça, c'est pas la politique, quoi. On ne peut pas la politique comme ça. Donc, il faut que nos frères journalistes nous disent la vérité. Ils savent très bien que c'est comme ça que ça se passe. Mais quand ils viennent brandir que le ministre travaille sur le terrain, nous sommes d'accord. Mais il faut qu'ils laissent aussi les autres travailler pour qu'ils puissent aller à de vrais combats. Et on verra le gagnant. Merci et bonne suite.
Merci, Folie de Décon. De Décon, nous passons dans un autre quartier appelé au 91 36 63 75. Allô?
Allô.
Bonjour.
Je vous écoute de loin.
Ah.
Et dis-moi, à chaque fois que vous la veillez, pour voir si on peut y aller quand même.
La veille du papa de Pascal.
Pascal.
Mais c'est Adamavo.
Adamavo, oui.
Église des Assemblées de Dieu d'Adamavo. Église des Assemblées de Dieu de. Voilà, c'est là.
D'accord, c'est bon. Voilà. Bon. Je vais demander
votre nom, maintenant.
C'est ici.
Ici, d'accord.
Ici, je vais demander à l'Institut de Firmin, à Pouli, si on veut. Et le mot, régime pouvoir, là. Ça se dit aussi en France, ou se mettre qu'en Afrique, ou se dit. Bon, comment on dit ça? Firmin pense que les poutifs, là, les éternels poutifs récidivistes en Afrique, là, qu'ils font du gangstérisme d'État. Qu'est-ce qui se passe ici, depuis la nuit des temps, là? Coup d'État sur coup d'État, institutionnel, militaro-institutionnel, tous les jours, on nous fait ça. Comment il va l'appeler? Firmin va l'appeler. Est-ce que c'est l'opposition qui braque votant, vote pour l'opposition, pour qu'ils gouvernent bien, qu'ils gouvernent humainement? C'est eux qui prennent des chars pour aller braquer leur vote? Non. Non. Et puis, ce qui se passe là, ce n'est pas de la retrahison. Ce qui se passe là, je suis en arrive à la 5e République en Catimini, à 2h du matin là. C'est quoi? Ils n'ont qu'à me dire ça. Merci. Bien sûr à ça.
Merci beaucoup. Ici, du côté de Mina Mandou, une autre personne qui s'apprête pour entrer en ligne 90 86 35 35 ou bien le 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, chef.
Vous allez bien?
Je vais très bien comme les petits poissons dans la lagune de Nikonakoué.
Ah, d'accord. Votre nom maintenant?
Et c'est Sylvain.
Sylvain, vous êtes à Nikonakoué?
Et il paraît que je suis partout.
Ah, d'accord.
Oui. Bon, franchement, les gens parlent comme les Togolais sont venus sur cette terre il y a une heure. Alors, nous tous, on connaît tout. On connaît ce qui se passe. Le plus récent, l'élection présidentielle 2020. Bon, on ne peut pas nous embrouiller comme ça, monsieur le journaliste. C'est leur point de vue, on ne peut pas refuser.
Mais c'est la démocratie aussi qui demande ça, on ne peut pas avoir un seul point de vue. Hein.
Voilà. Mais c'est pour nous embrouiller, on sait tout. Il faut que les juges soient clairs. Même si on organise les élections d'ici la fin de ce mois, si les juges sont clairs, il n'y a pas de problème. Au Togo, les jeux électoraux ne sont jamais clairs. C'est pas, il y a rien à dire. Bon, merci quand même.
Merci beaucoup, Sylvain. Appelez-nous au 90 86 35 35 ou bien le 91 36 63 75. Vous êtes dans le club de la presse du jour et nous sommes ici autour du plateau par justement de ce report d'élection demandé par la DMP. Allô? Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous allez bien?
Très bien, même.
D'accord. Votre nom?
Agbo.
Agbo, vous êtes dans quel quartier?
Je suis à Noukafou.
À Noukafou, d'accord. Nous vous écoutons.
S'il vous plaît, au Togo, nous avons tous vécu l'histoire du Togo. Et s'il faut, au Togo, que les choses corrigent, il faut qu'on accepte nos erreurs. L'homme qui est, toujours il est campé sur ses erreurs, il ne veut jamais accepter que l'autre lui donne conseil, ne peut jamais changer. Nous sommes tous là, et chaque jour quand les élections approchent, on a de ces problèmes-là. L'opposition dit ils sont que le pouvoir fait des choses qui sont anormales. Si maintenant on veut organiser les élections et on annonce, pourquoi ne pas se préparer au préalable avant que l'affrontement ne commence? Il ne faut pas attendre que les autres parlent pour les assommer de nos paroles. Nous avons tous des choses à dire sur notre pays, le Togo. et que chacun va dire ce qu'il pense pour l'évolution de notre pays.
D'accord.
Si Firmin Tekou et l'autre, son collègue,
il y a quatre personnes autour du plateau.
Ce qu'il pense pour l'évolution, pour que les élections se passent paisiblement dans notre pays, c'est ce que les autres ont dit. Ce que les autres ont, ils n'ont qu'à apporter leur pierre pour la construction de notre pays. Il ne faut pas les assommer de paroles. Vous les interviewez quoi? Ils sont des journalistes. Ils doivent dire ce qu'ils pensent.
Ouais.
Mais pourquoi? Bon, bonne émission.
Merci beaucoup. Agbo reçoit la dernière personne pour faire le dernier tour de table. Allô? 90, 86, 35, 35, la dernière personne. Allô, bonjour.
Allô,
allô, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous allez bien?
Oui, je vais bien. C'est monsieur Thiem depuis Davier.
Monsieur Thiem depuis Davier, hein?
Oui, oui.
D'accord, nous vous écoutons, Thiem.
Moi, je vais dire quelque chose pour nos acteurs politiques.
Allez-y.
Surtout à l'opposition. Avant que l'opposition ne reproche certaines choses au parti, au pouvoir, il va falloir que l'opposition elle-même se mette en question. Avant qu'il ne réclame certaines choses, il faudrait qu'il voie ce qui le concerne aussi à réparer dans son sein. Actuellement, nous, Togolais, on est fatigués de l'opposition, qu'à la veille des élections, ils sortent des choses qui nous mélangent tous Togolais. Avant ça, il faudrait qu'ils sortent. Ils n'ont qu'à regarder dans leur sein ce qu'il faut réparer. Il y a des choses à réparer. Il n'y a pas que cette, les élections qui arrivent là. Il y a eu des élections passées. Pourquoi ils ne cherchent pas à corriger ces erreurs qu'ils ont commises dans le passé, et que toujours ils continuent par aller de l'avant avec ces erreurs-là. Ils n'ont qu'à voir ce qui est dans leur sein, qui les reproche. Ils n'ont qu'à corriger ça. Et se lever très tôt. Ce n'est pas à la veille des élections qu'il faut sortir, qu'il faut faire ceci.
D'accord. Merci beaucoup, Thiem.
Excusez-moi. L'opposition ne s'arrête pas à Lomé. C'est sur tout l'étendue du territoire. Mais tout ça, là, ils sont à Lomé. Ils ne vont pas à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur ne viennent pas à Lomé. Ça ne fait pas comme ça la politique.
D'accord.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Thiem. Et c'est vous qui terminez la liste des auditeurs. Nous allons faire rapidement le dernier tour de table. Germain Poulet, vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil.
Oui, en fait, je suis un peu surpris. Je ne sais pas si on parle de la même opposition togolaise. Ben, on vient de sortir de plusieurs élections enchaînées, on connaît la santé de cette opposition. Dans l'ancien leader disait, mais le parti au pouvoir prospère sur nos querelles. Et un autre qui répond, non, c'est plutôt l'ancien leader qui a le frein. Donc l'opposition elle-même sait qu'elle est affaiblie. Donc c'est pas nous qui inventons ça. Les gens viennent de le dire eux-mêmes. Alors quand j'écoute Gabin qui me parle du terrain, des trucs, est-ce qu'il ne sait pas que la campagne, le premier argument de campagne de Fornia Singbe, c'est ses réalisations, surtout dans les milieux ruraux. Mais là-bas, on ne voit personne. Quelle est la dernière fois où l'opposition a fait des meetings à Daparon, à Karab, à Sar, Sokode, Chamba, tout ça? Il n'y en a pas. Est-ce qu'ils vont sur le terrain rencontrer des gens? Il n'y en a pas. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, sur les médias et les communiqués qui sont la campagne, c'est le terrain. Donc, quand Rabé me parle de terrain, mais le terrain, c'est déjà les réalisations de fort. Hein. C'est vrai qu'il y a la vie chère. On en parle, c'est la principale difficulté au Togo et partout au monde. Mais il y a des améliorations. Même si la vie est chère, vous allez dans les milieux ruraux aujourd'hui, l'opposition est absente parce que les gens ont l'impression que le pays a changé. Dans les villes, les gens sont plus exigeants. Ça se comprend. Ou certains efforts ne sont pas totalement appréciés. Il faut faire mieux et tout ça. Mais nous n'inventons rien. Les leaders de l'opposition viennent d'avouer même qu'ils sont... Voilà. Donc, c'est pas nous. Mais je suis un peu surpris quand les gens... parle comme si c'est nous qui affaiblissons l'opposition. Nous faisons un constat que l'opposition elle-même fait. Beaucoup ont dit on a déçu même nos électeurs. Mmh. Depuis Jean Kissi, Fabre, tout le monde le dit en fait.
D'accord. Merci beaucoup Germain Poulet. Gaben Adjaro, vous êtes directeur de cabinet juriste, puis directeur de cabinet de juriste consulting. Merci d'être là. Votre mot de la fin.
Oh, mon mot de fin, bon, c'est par rapport à ce que le grand frère Germain Poulet vient de dire. Le terrain pour... le Togolais, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est le panier de la ménagère, c'est beaucoup de choses. L'opposition n'a pas quand même l'aide de nos publics, c'est pas l'opposition qui gère les fonds. C'est pas l'opposition qui gère les fonds publics. On a eu toujours ces campagnes électorales où je n'ai pas vu un seul opposant ne pas proposer de projet de société. Donc à un moment donné, il y en a plein. La ANC a pratiquement les fédérations sur toute l'étendue du territoire, le CAR et autres là. Donc à un moment donné, il faut permettre aux gens d'aller dans certaines zones aussi pour pouvoir faire leur travail.
Merci beaucoup, Gabriel Firmé Teko Agbo. Vous êtes journaliste chroniqueur politique.
J'ai l'impression que les Togolais ne suivent pas les déclarations des opposants. Aujourd'hui, au Togo, les opposants eux-mêmes disent qu'ils constituent un frein pour eux-mêmes. Vous comprenez? Qu'ils font prospérer le parti au pouvoir, c'est tout. L'opposition même reconnaît ses faiblesses, ses problèmes. Alors pourquoi les Togolais vont dire le contraire de ce que l'opposition a fait le constat en disant qu'en fait, ce n'est pas le parti au pouvoir qui est notre problème. Hein. C'est nous-mêmes qui nous constituons un véritable problème. C'est ça même au fait. Donc, le parti au pouvoir, lui, il est quelque part et l'opposition même s'entretue, s'entredéchire. Le parti au pouvoir ne le fait rien. Il y a quelqu'un qui a dit le système RPT uni prospère sur nos querelles. Et l'autre qui réplique, ah, c'est toi-même plutôt le frein, c'est toi l'obstacle. Vous comprenez un peu? Donc, au lieu de s'attaquer au parti au pouvoir...
Et lui, il n'a jamais participé aux élections.
Juste dire qu'en réalité... donc, juste dire en réalité que... on sait comment ça se passe au Togo. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à comprendre un certain nombre de choses.
Que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup, Firmette Ko Agbo. Samir Orosama, vous êtes juriste et défenseur des droits humains. Voilà.
Mais écoutez, David, vous savez, au Togo, nous avons des tests qui organisent le fonctionnement des collectivités territoriales. Donc, nous avons une loi sur la décentralisation et les libertés locales. Nous avons deux niveaux, deux formes de participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques. La question des municipales, la question des élections municipales, c'est beaucoup plus une question citoyenne que politique. Donc on doit faire en sorte que... Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les citoyens, vous leur posez la question, quel est le maire de ta commune? Les citoyens ne savent même pas dans quelle commune ils sont. On doit faire en sorte que lorsque vous êtes dans une commune, que vous puissiez, vous aussi... hein, avoir l'ambition de diriger au niveau de votre commune, de faire en sorte que les élections qui arrivent, que ce soit une forme d'engagement et de participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques. D'accord. Et le deuxième niveau, c'est de faire en sorte que, dans le processus électoral qui est en cours, que toutes les préoccupations soulevées par les acteurs politiques puissent trouver une oreille attentive donc des gouvernants et qu'on puisse aller vers des élections apaisées, crédibles, inclusif et accepté par tous les acteurs.
Merci beaucoup. Merci à tous d'être passés au plateau pour le Club de la Presse du jour. C'est la fin. Merci à la coordination microphone. Je me nomme David Apoitier. On se retrouve très prochainement.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.